Chapitre 9. Chamaï. Eugénia ne manqua point de se rendre le lendemain matin à l'invitation qu'elle avait reçue. La matinée était consacrée cette fois à la poésie élégiaque. Cette conformité de goût avec Eugénia agit imperceptiblement sur Mistress Burlington, qui la retint jusqu'à ce qu'elle fût forcée de retourner, parce qu'il fallait se préparer pour un bal public. Miss Margland avait fini ses profondes délibérations sur la manière dont elle y présenterait sa belle pupille, comme finissent ordinairement toutes les délibérations de cette nature, en faisant ce que font les autres en pareille occasion. Camilla se flatta d'y revoir Edgar, qui, dans la circonstance présente, pourrait croire qu'il ne devait point venir s'informer d'elle chez une étrangère. Mistress Burlington s'était proposée de ne paraître en public qu'après avoir lié sa partie. Mais, entraînée par la curiosité de voir Indiana, elle prit le parti de s'y rendre avec Camilla, sans avoir, pour l'accompagner, d'autres personnes que Lord Valhurst. Mistress Mitin ne réussit pas dans les petites tentatives qu'elle fit pour se procurer un billet. Mistress Burlington, selon son usage, fut la dernière à paraître au bal, car elle ne commençait jamais sa toilette qu'après le thé. Il n'était guère possible que ces deux beautés entrassent sans faire une vive sensation. Mistress Burlington, pour qui ces assemblées n'étaient pas nouvelles, ou ne s'apercevait point des attentions qu'on lui marquait, ou répondait aux compliments avec une modestie séduisante. Camilla avait le cœur trop rempli pour s'occuper de l'impression que faisait sa présence. Lord Valhurst, qu'à son âge on aurait pris pour leur père, avait un air d'adulation ridicule. Il ne savait à laquelle il prodiguerait le plus la fadeur de ses galanteries. Mais la beauté d'Indiana, qui parut ensuite, produisit un effet plus frappant encore que les grâces enchanteresses de Mistress Burlington et l'amabilité vive et spirituelle de Camilla. Un ensemble parfait dans les traits de son visage et dans sa taille faisait la surprise d'un sexe et l'envie de l'autre. Les femmes, même les plus charmantes, sentirent expirer en elles leur instinct de rivalité. On la suivait, on la considérait comme un de ces chefs-d'œuvre de l'art qu'on admire et qu'on n'ose pas approcher. Cet hommage ne s'étendait pas sur les personnes qui l'accompagnaient. Miss Margland, si hautaine, si méprisante, reçut pour cette fois avec usure ce froid dédain qu'elle avait pour les autres. Eugénia parut n'être amenée que pour rendre plus éclatante, par le contraste, la beauté d'Indiana. Quant au docteur Hawthorne, Miss Margland l'avait groupé dans sa suite, quoiqu'elle le détestât, afin qu'il aidât à descendre de la voiture et qu'il appelât le soir quand on en aurait besoin. Il avait l'air d'errer dans un désert. Miss Margland avait compté la veille au moins sur 10 propositions de mariage, fondées sur cette première et brillante entrée dans le monde de sa belle pupille, dont les yeux éblouissants cherchaient Melmont pour le dompter ou l'anéantir. Le premier soin de Miss Margland fut de se faire connaître avec ses jeunes demoiselles au maître des cérémonies. Indiana n'eut pas besoin de recourir à cette précaution d'usage pour être choisie sur le champ par l'homme le plus élégant de l'assemblée. Cependant, elle en fut moins flattée quand elle vit un baronnet présenter en même temps la main à Eugénia. À la vérité, ce personnage était ruiné, mais son titre était supérieur à celui du partenaire d'Indiana, qui cependant avait sur celui de sa cousine l'avantage de la fortune et de la jeunesse. Eugénia, peu touchée de cet honneur, ne cherchait que Melmont. Non pas comme Indiana, pour le voir et le frapper de ses regards, mais pour le voir et le révérer en silence. Malheureusement, Melmont n'était pas dans l'assemblée. Il savait qu'il ne pourrait commander à sa passion quand l'objet en serait présent. D'ailleurs, sa fortune ne lui permettait plus de fournir aux dépenses nécessaires pour paraître en public, et, vertueusement, il avait consacré sa soirée à sa tante malade. Edgar avait impatiemment attendu l'arrivée de Camilla. Il n'avait fait qu'apercevoir Lord Valhurst dans la maison du bain, et il ne se le rappela pas, maintenant qu'il le voyait dans tout l'appareil dont un vieux petit maître cherche à couvrir les ravages du temps. Il s'approcha de Camilla en la saluant, puis adressa quelques honnêtetés à Mistress Burlington. Les Westwind l'avaient attendu à la porte et le père avait dit à son fils de donner la main à Camilla pour la conduire dans le lieu de la danse. « C'est une fille charmante, dit le vieux Westwind quand elle fut avancée. Charmante fille, je vous promets. J'ai pris prodigieusement d'amitié pour elle. Al aussi. Edgar sourit de l'ardeur de ce bon vieillard et lui dit « Je crois, monsieur, qu'il n'y a pas longtemps que vous connaissez cette jeune personne. » « Non, monsieur, mais je n'ai de cela nul souci. Longtemps ou peu de temps, c'est tout un pour moi quand j'aime une personne. » Car je n'examine point combien d'années se sont écoulées depuis que je l'ai vue pour la première fois, mais combien de bonnes qualités sont dans son cœur pour me faire désirer de la revoir. Son oncle est le meilleur ami que j'ai au monde, et quand je quitterai cette ville, j'irai le voir. Oh, je suis sûr d'en être bien accueilli. Mais il n'a jamais vu mon Hall. Quoi qu'il en soit, je sais que cette bonne fille dira quelques paroles en sa faveur. Car elle m'a dit elle-même que je pouvais m'enorgueillir de mon fils. Cette bonne franchise de caractère fit tant de plaisir à Edgar, quoiqu'il fût alarmé de la visite que son fils ferait à Sir Hugh sous les auspices de Camilla, qu'il serait resté près de lui s'il en eût été séparé par l'entrée du jeune Lindmer, dont il ne pouvait souffrir l'insolence. Mrs. Burlington, qui ne voulait pas danser, était arrivée si tard que lorsque Henry eut amené Camilla, toute l'assemblée fut avertie que le thé était servi. Elle désirait faire connaissance avec Indiana. L'absence de Melmont écartant toutes les objections qui se seraient opposées à leur entrevue, elle chargea Camilla de réunir les deux sociétés en une seule. Depuis longtemps, Miss Margland n'avait éprouvé pareille satisfaction, et dans cette réunion, elle fit plus de frais en politesse pendant quelques minutes qu'elle n'en avait fait dans tout le temps de sa résidence à Clèves. Mrs. Burlington vit avec surprise la beauté que son frère adorait. Elle donna des regrets si vifs à son malheur que si sa fortune eût été libre et qu'elle eût pu la partager avec lui, elle n'aurait pas hésité. Lord Valhurst ne quittait pas sa parente. Les trois partenaires d'Indiana, d'Eugénia, de Camilla, dans les dernières danses, retinrent le privilège de les accompagner pour prendre le thé. Quelques minutes après, Lindmer vint les joindre. « Eh bien, avez-vous là quelque chose à quoi l'on puisse toucher ?» Et la main appuyée sur le bord de la table, il y penchait de tout son corps pour voir à son aise tout ce qu'il y avait dessus. Il s'était glissé de force entre Miss Margland et Camilla. Après avoir pris du thé, qu'il trouva détestable, il dit qu'il fallait qu'on lui donnât du vin de champagne. « Ah, mon frère, dit Indiana, si vous faites venir du vin, je ne puis plus rester. » Miss Margland dit la même chose, mais il siffla sans répondre. Mrs. Burlington, choquée de la manière brusque dont il s'était introduit et qui ne l'avait excusé qu'à cause de la beauté de son visage, proposa de quitter la table et de faire un tour. « Restez en paix, mesdames, leur dit M. Westwin, et prenez tranquillement votre thé. » Puis, s'adressant à Lindmer, « Je suis surprise, s'écria-t-il, que vous n'ayez pas honte de vous-même. » « Si vous étiez mon fils, je vais vous dire ce que je ferai. Je vous enfermerai. Je vous servirai comme j'ai fait quand je vous ai conduit à Leipzig il y a 8 ans. J'ai toujours haï les effrontés. Je ne puis les supporter. » Lindmer, affectant de ne point l'entendre et rougissant de colère, appela le garçon avec violence et, dans la sotte intention de se venger, il lui ordonna de lui apporter non seulement du vin, mais aussi du fromage de Stilton. « Du fromage ? » s'écria Miss Margland. « Si vous faites venir du fromage, la salle ne sera plus tenable. Quelle vilaine odeur, songez donc !» Le garçon répondit qu'il n'y avait point de fromage de Stilton. Il en proposa plusieurs autres que Lindmer refusa. Plus furieux, il redemanda son champagne. Le garçon lui dit honnêtement que ce n'était pas l'usage de servir du vin de champagne avec le thé. Lindmer leva sa houssine sur le garçon, n'osant pas la lever sur M. Westwin. Le garçon, se voyant provoqué, se crut en droit de la lui arracher des mains. Clermont résista, il s'ensuivit un grand combat. Les femmes, sérieusement alarmées d'une scène aussi désagréable, se levèrent. Lord Valhurst aurait bien désiré d'être le seul tuteur de ses deux belles pupilles, mais Henry, voyant que son père lui défendait de se mêler de la querelle, offrit ses services à Camilla, qui ne put les refuser. Mrs. Burlington, impatiente et vive, s'enfuit la première. Indiana, plus légère que Milord, qui pouvait à peine la suivre des yeux, se sauva de même avec son nouvel adorateur qui lui donnait la main. Eugénia fut reconduite par son jeune et nouveau partenaire. Edgar, au premier tumulte, était accouru vers Camilla. Il fut désolé de lui voir accepter la main de notre conducteur et s'ouvrant un passage dans la foule, il la suivit jusqu'à la voiture de Mrs. Burlington, où l'heureux Henry l'aida à monter. Cependant, le trouble qu'ils étaient élevés dans la salle n'était pas encore apaisé, car le vieux West Wind, charmé de l'humiliante correction que Lindmer recevait, ne voulut permettre aucune médiation, aucun secours. Il s'écriait « Cela lui fera du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Cette leçon lui vaut mieux que celle de Leipzig. Qu'il sente qu'un homme est un homme et qu'on n'attend pas patiemment des coups de houssine. » Cependant, Miss Marland ne s'oubliait pas dans une des perfections qu'elle croyait attachées à son sexe, celle de crier sans toutefois qu'elle en retirât le moindre avantage, puisque son air repoussait ceux qu'attiraient ses cris. Et comme elle vit qu'il n'y avait pas une seule femme dans l'assemblée qui ne fût reconduite par son cavalier, elle pensa qu'elle ne devait pas être la seule qui fût son cavalier. Elle s'adressa donc au docteur Hogborn, mais le docteur Hogborn était trop occupé de ce qui se passait autour de lui. Le docteur, témoin de ce combat qu'il comparait au jeu de l'ancien pugilat, s'amusait pour la première fois de la soirée. Il répondit froidement « J'occupe ici, madame, une très bonne place et je ne voudrais pas la quitter que le combat ne fût fini. »« Vous ne voulez donc pas venir, docteur ? » s'écria-t-elle avec rage. Le docteur ne répondit plus et Miss Marland s'adressa vainement à d'autres. Alors le maître de la maison mit fin au combat en appelant le garçon. Clermont aurait voulu pouvoir arracher les yeux au vieux West Wind, mais quoiqu'il fût prêt à se déchirer lui-même de fureur pour ce double affront et qu'il eût reçu de vigoureuses gourmades, il affecta l'air satisfait, comme s'il n'avait boxé que pour son plaisir. « Monsieur !» s'écria Miss Marland au docteur, qui rêvait encore sur le combat. « Je présume qu'à présent vous aurez la complaisance de prendre soin de moi jusqu'à la voiture. » « Ces habits modernes, dit gravement le docteur, sont bien communs et donnent un mauvais effet aux attitudes. » Cependant, il se leva, ne sachant trop quel sens donner à ce « prendre soin de moi jusqu'à la voiture ». Il resta stoïquement en repos, de manière qu'en son désespoir, elle fut obligée de s'en aller seule.